Recto, verso. Vanessa Longepierre.
Pour ce sixième numéro de Recto Verso, j'ai rendez-vous avec l'artiste ardéchois Gérard Morel. Lui et sa compagne me reçoivent chez eux, sur les bords du Rhône à Tournon. Leur maison haute de 4 étages m'évoque immédiatement la maison de Ferdinand dans La Prophétie des Grenouilles. L'image n'est pas anodine puisque j'y suis reçue avec beaucoup de bienveillance. C'est tout en haut, au 4e étage, que j'installe mon studio mobile. Dans une immense pièce, à la moquette couleur rouge éclatant. Au mur, des photos souvenirs, probablement des rencontres artistiques. Quelques affiches grand format, avec le nom de Gérard Morel et ses invités. Des instruments, des disques, des objets. Et l'horloge. L'atmosphère semble y être sacrée. Gérard Morel est auteur, compositeur, interprète, mais c'est probablement le terme de chansonnier qui lui correspond le plus. Ce faiseur de chansons à l'humour satirique tord les mots, les étire, les mélange, mais toujours avec le plus grand respect pour la langue française et toujours avec beaucoup de tendresse pour ses sujets.
Recto verso.
Installez-vous confortablement, nous partons en confidence. L'équipage vous souhaite un beau voyage.
Alors quand j'étais vraiment môme, c'est-à-dire vers autour d'une dizaine d'années, donc ça remonte forcément, c'est le début des années 60, ça. J'étais abonné à Salut les copains, qui était une émission sur Europe 1, qui était phare à l'époque, et puis donc il y avait une revue. Et ben, comme tous les mômes de mon époque, on écoutait ce qui se faisait à l'époque. Alors évidemment, c'était l'apparition des Beatles, Johnny, évidemment. Bon, j'étais très client de Johnny, mais j'étais surtout très client de Adamo. Et même si aujourd'hui, j'écoute moins Adamo, le mec qui dit du mal d'Adamo, il insulte mon enfance, quoi. Voilà. Parce que je pense que c'est lié aussi au fait que j'étais sensible au fait que c'était quand même plus écrit que Johnny, qui était un homme de scène, indiscutablement. Enfin bon, et j'aimais beaucoup. Hein, mais bon, Adamo, ça m'a toujours touché, quoi. Mais petit, hein, je connaissais les chansons par cœur. Je collectionnais, j'avais tous les disques. Dès que ça sortait, les 45 tours, enfin bon. Donc voilà, ça c'était le premier contact, mais qui est vraiment lié quasiment à mon enfance, quoi. Je me souviens que en sixième, comme j'étais abonné à Salut les copains, il y avait les paroles des chansons. Je faisais même commerce de ça. Je copiais pour des copains qui voulaient avoir des paroles de chansons, je les copiais. Et je devais vendre ça 10 centimes, enfin des conneries. Ça me permettait d'acheter des Mars, mais ça marchait tellement. C'est pas des conneries hein, ce que je dis. Hein. Ça marchait tellement bien qu'à un moment donné, j'ai investi dans du papier carbone. Je suis passé à une phase industrielle, parce que du coup, avec le carbone, ça me permettait de copier plusieurs à la fois, parce qu'il y en avait beaucoup qui me demandaient, quoi. Donc je connaissais des chansons par cœur. Mais ça, j'étais vraiment ptio, quoi. Aujourd'hui, j'ai pas le même regard, évidemment, sur l'écriture d'Adamo que j'avais à l'époque. Même si je trouve toujours que c'est un écriteur quand même soigné, et il a quand même deux, trois bijoux. Notamment, il y a une chanson que j'aime beaucoup chanter, moi, quand j'en ai l'occasion, qui s'appelle « Chanson en rondelle », on pourrait écouter, qu'il écrit, il a 22 ans quand il écrit ça, parce que moi, je la connais sur un disque de l'Olympia de 65, et en 65, il a 23 ans. Donc, il l'a forcément écrite avant. Et c'est une chanson, je m'amuse assez souvent sur des concerts de la faire, comme ça en disant, je ne vous dis pas de qui c'est, vous allez essayer de deviner, parce que ce n'est pas une chanson connue. Et ça ne loupe pas, à chaque fois les gens m'envoient après, Perret un peu, mais on m'a cité Ferré, on m'a cité Boris Vian, on m'a cité enfin, parmi les plus grands auteurs, quoi. Bernard Dimet. Et avant que les gens découvrent que c'était Adamo, sauf si quelqu'un au milieu connaît la chanson. Mais elle n'est pas très connue. Et ça me réjouit toujours de faire découvrir cette chanson aux gens.
Il vivotait passer des heures à répéter son numéro. En attendant une vie meilleure, il les pâtés, les badauds. Il allumait une cigarette, il soufflait dessus. Les spectateurs étaient en fête, la cigarette a disparu. Un jour dans un petit bistrot, il rencontra la petite Lulu, qui lui dit, t'as pas l'air idiot, dans la vie, que fais-tu? Il alluma une cigarette, il souffla dessus. La petite Lulu était en fête, la cigarette a disparu. La petite faisait des yeux tout ronds, c'était gagné pour le dodo. Elle se ferait plus de mourons, ils travailleraient en duo. Elle allumerait les cigarettes, elle soufflerait dessus. Elle compterait les recettes, adjugé n'en parlons plus. Les temps étaient très difficiles, dans le quartier on les voyait trop. Fallait courir de ville en ville, plus question de prendre le métro. Suffisait plus d'une cigarette, de souffler dessus. Il fallait se creuser la tête, ces petits trucs-là ne prenaient plus. Sacrifiant ses économies, une caisse en bois il acheta. Mais pourquoi cet énorme si? La petite Lulu comprenait pas. Et ainsi cette fois par semaine, il la coupait en petits morceaux. La belle se plaignait à peine de quelques fourmis dans le dos. Passer ses jours au fond d'une caisse, convenez-en, ça n'est pas drôle. Et la petite voulait qu'il cesse, ou qu'il se coupe à tour de rôle. Mais il ne voulait rien savoir, il ne voulait rien expliquer. Allons Lulu, y a pas d'espoir, allons, c'est bien trop compliqué. Une nuit la belle n'y tenant plus, surprit le gars dans son sommeil. De son air le plus ingénu, elle fit 10 morceaux tous pareils. Elle était fière à juste titre, elle avait fait du bon boulot. Réveille-toi, fais pas le pitre, comment recolle-t-on les morceaux? Comment expliquer aux gendarmes qu'elle avait raté son numéro? Et se souciant peu de ses larmes, ils l'emmenèrent au cachot. Il la garde depuis 20 ans, elle comprend toujours pas la belle. Pour oublier ses cheveux blancs, elle découpe des rondelles.
J'avais appris l'accordéon tout petit. Mon père était un fan d'accordéon, d'André Verchuret, mon père, qui faisait les 3-8 à Rhône Poulain, qui était vraiment un ouvrier qui avait... pas sûr qu'il avait le certificat d'études, donc il savait écrire à peu près, mais les lettres importantes, c'est ma mère qui les écrivait, parce que pour lui c'était un peu la limite. Mais par contre, chaque année André Verchuren venait jouer dans un village à côté, et là il posait un jour, quoi. Et ce qui fait qu'à 7 ans, j'avais 7 ans quand il a vu dans le journal un professeur d'accordéon avec 2 ou 3 élèves autour de lui, et il m'a dit, tu voudrais pas apprendre l'accordéon? Et t'as 7 ans, ton papa te dit tu veux pas apprendre l'accordéon, mais tu dis bah ouais, mais enfin moi je savais pas à peine ce que c'était. Et donc à 7 ans, j'ai appris l'accordéon, j'ai fait 1 an de solfège d'abord avec ce prof, avant d'avoir l'accordéon sur les genoux. Et donc j'ai appris la musique grâce à ce prof, mais grâce à mon père, quoi, en fait, qui était tout sauf musicien, lui. Donc voilà, ce qui fait que quand ado, je découvre Brassens, que je vois que l'accordéon, quand même, pour intéresser les filles, c'est quand même moins pratique que la guitare. J'emprunte une guitare à un copain pendant des vacances de Pâques. Et il me montre un accord. Et j'ai retrouvé les autres parce que comme je connaissais un peu la musique. Et depuis, je sais me servir d'une guitare, mais je me sens pas guitariste, mais je m'en sers. Je fais des concerts avec et tout. Mais si je dois faire un disque, je prends un guitariste. Puis je fais pas 3 heures de guitare par jour, comme ce qui est quand même une discipline obligatoire pour un musicien, pour n'importe quel instrumentiste. Donc ça, je fais pas du tout. Et puis ça m'intéresse pas. Puis c'est pas là que ça se joue pour moi, quoi. Donc, mais je sais m'en servir. Je compose avec. Voilà. C'est-à-dire que je suis pas instrumentiste, mais je suis musicien. Voilà. C'est un peu la différence, quoi. Je suis pas très habile sur les instruments eux-mêmes, parce que ça, c'est des disciplines auxquelles je ne m'astreins pas, quoi. Mais par contre, la musique, voilà, je sais comment ça marche, je sais à peu près la lire et l'écrire, pas très, très couramment, mais je sais comment on fait une croche, etc. Donc voilà, grâce à mon papa. Au lycée, on avait constitué un groupe, on avait créé un groupe qui s'appelait les Self-Mad Men, Mad Fou, évidemment, donc jeu de mots déjà, et on écrivait des conneries en cours de maths pour faire rire les filles le jeudi ou le mercredi quand c'est devenu le mercredi. Et ça marchait bien. Mais moi, là, j'étais ni le chanteur ni le guitariste, d'ailleurs, il y avait deux bons guitaristes qui faisait un peu la base du truc. Il y avait un copain qui chantait bien, et moi, en fait, je faisais de la batterie sur la valise de mon accordéon, mais avec les mains, quoi. C'est ça. En fait, le copain chanteur et moi, on faisait la partie, disons, spectacle, on faisait les cons, et ça faisait donner lieu à des grandes improvisations collectives, c'est-à-dire que nous, on faisait semblant d'être un groupe génial. Et en face, il y avait des copains qui faisaient semblant d'être un public complètement ébahi. Les filles hurlaient, les copains gueulaient, ça sifflait. Enfin, il y avait une sorte d'ambiance, mais fictive. Mais quelqu'un qui aurait pénétré dans la salle au moment où on jouait aurait pu penser que c'était le groupe du siècle, quoi. Parce que tout le monde jouait le jeu, c'était assez rigolo. Il y avait même un copain qui faisait le rôle du manager. Le copain chanteur était censé ne parler qu'anglais, et moi je traduisais, donc ça donnait évidemment des sketchs. Enfin, etc., quoi. Et on a composé quelques chansons à l'époque, dont une qui a fait une longue carrière au lycée, même 10-12 ans après que je sois parti du lycée, quoi. Enfin, c'est une chanson qui faisait partie du répertoire du lycée, c'est-à-dire les mecs chantaient ça dans le car en rentrant des matchs de foot, mais sans savoir d'où ça venait, quoi, en pensant que c'est une chanson, et c'est une chanson que j'avais, donc j'ai écrit en cours de maths avec des copains, quoi. Les petits oiseaux, ça s'appelait. Mais qui était vraiment un tube au lycée pendant. À l'époque, on y était d'une part. C'est-à-dire que même. Je me souviens qu'un des profs d'italien, dans le cours, il nous l'avait fait traduire en italien. Okay. Et chanter en italien. C'est un peu surréaliste. Mais j'ai su qu'après, après que je sois parti, bien facilement, au moins une dizaine d'années derrière, elle était encore chantée dans des moments festifs. C'est une connerie, hein. Les petits oiseaux sont bien jolis, ils volent bien haut, ils font cuit cuit. Donc c'était vraiment très potache, quoi, un humour très potache. Parce qu'après les refrains, et puis les refrains, on peut en fabriquer autant qu'on veut, parce que les couplets, c'était les petits oiseaux qui ont des plumes bleues, ils sont heureux, les petits oiseaux qui ont des plumes rouges, qu'est-ce qu'ils bougent, les petits oiseaux qui ont des plumes marron, ils tournent en rond, enfin je sais pas, on peut en faire des kilos comme ça. Les petits oiseaux qui n'ont pas de plumes attrapent des rhumes. Et ça a donné un tube. Ah, mais un tube, c'est long et creux, c'est tout. Hein. C'est le principe du tube.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutrent et les gens probent, mais disent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutrent et les gens probent, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de colle un tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau.
À l'adolescence, j'ai découvert Brassens, quoi. La qualité, j'ai été sensible, ça correspondait aussi à mon évolution d'adolescent, quoi. Et la rencontre avec Brassens a été, je dirais définitive, parce que c'est, pour moi, c'est toujours aujourd'hui le grand patron, quoi. Parce qu'il n'y en a pas mis une à côté, quoi. Quand on réécoute, les plus faibles, il ne les a pas enregistrés. D'autres l'ont fait à sa place. Et à l'écoute, on peut éventuellement comprendre qu'il ne les a pas enregistrés, parce qu'il y a... Voilà. Mais toutes celles qu'il a enregistrées, c'est que des bijoux, quoi. Brassens, oui, ça a été source d'inspiration, puis c'est... J'ai travaillé les chansons de Brassens à la guitare. C'est comme ça que j'ai appris la guitare, en fait. Ouais. C'est en me familiarisant avec les chansons de Brassens. Et là, c'est un répertoire que je connais bien toujours, d'ailleurs, que je pratique toujours beaucoup. Mon projet, à ce moment-là, c'était... Bon, je chantais comme ça par jeu, mais mon projet, c'était le théâtre. Quand je suis adolescent. D'abord, j'ai certains profs qui ont accompagné ça, et ça, je leur en sais gré, toujours, notamment une prof de français qui est restée une amie jusqu'à la fin de sa vie, qui m'a aiguillé sur des stages de théâtre que la Comédie de Saint-Étienne venait faire à la MJC d'Annonay, donc j'ai suivi ça. Donc j'en ai fait un ou deux. Là-dedans, un des profs, des enseignants, des comédiens enseignants, m'avait un peu repéré, donc m'avait invité à venir faire un stage plus important, ce que j'ai fait. Et quand j'ai fini ce stage, donc là, j'ai pas 20 ans, hein, quand j'ai fait ce deuxième stage de 5 semaines à Valréas, je sais que c'est ce que je veux faire, parce que quand j'attaque ce stage de 5 semaines, je me dis, bon, là, tu vas en manger, et c'est là que tu vas voir si c'est... Tu vois, je vais en faire tous les jours, j'en ai même fait plus que ce qu'on m'en demandait. Dès que j'avais fini de répéter un truc, j'allais voir répéter les autres, enfin, j'en ai bouffé. Et en sortant, je savais que c'était bien ça, quoi. Mais il n'y avait pas de troupe dans la région dans laquelle, à la porte de laquelle je puisse aller frapper en disant, voilà, j'aimerais bien participer avec vous, quoi. Comme il n'y avait pas de troupe, ben, j'ai dit, je vais en fabriquer une. Et là, donc, j'ai créé une troupe de théâtre, amateur évidemment. C'était avec les copains, on va faire un truc, on va monter des spectacles. Alors parmi mes copains, il y en avait un ou deux qui étaient un peu intéressés par le théâtre, mais pas tous. Après, il y avait une amie qui faisait les Beaux-Arts à Valence, par exemple. Donc je lui ai dit, bah, tiens, tu pourrais faire les décors. Enfin, Il y en avait une autre qui était bonne couturière, etc. Et je raconte celle-là souvent, mais elle est vraie. Notamment, je pense à un qui était plutôt assez doué comme ça, d'instinct, mais qui ne s'intéressait pas. Et je lui ai dit, si, tu viens faire l'acteur. Non, pas. Je lui ai dit, si, il y aura ma sœur. Ah bon, d'accord, c'est ta sœur. Et tout ça a fait qu'on a fabriqué des spectacles qui ont eu leur petit intérêt à l'époque. Bon, on était minots, hein, on n'avait pas de moyens. Les parents de certains donnaient un coup de main, soudaient, fabriquaient de quoi faire des jeux de lumière, enfin bon, etc. Mais ça a fabriqué donc une troupe amateur qui s'est développée petit à petit, jusqu'à un moment où la question s'est posée de passer le cap professionnel. Pour avancer, d'abord j'avais réuni à la maison, parce que j'ai toujours marché un peu comme ça, les responsables de culture de la Fédération des œuvres laïques de la Drôme et de l'Ardèche, qui nous aidaient à faire tourner les spectacles amateurs de la compagnie. Un jour, je les invite à la maison, en leur disant, voilà, bah, dites-moi qu'est-ce que je dois faire pour passer un palier, quoi. Et là, il y en a un qui me conseille une formation de cadre de l'action culturelle, alors qui n'est pas une formation ni de comédien, ni de metteur en scène, mais qui est plutôt une formation de directeur de théâtre. Donc, je candidate à ce truc, et je suis sélectionné. Et donc, je fais cette formation sur 15 mois, une formation prise en charge dans le cadre de la formation continue par le ministère du Travail. Enfin, c'était un truc que j'étais payé pendant 15 mois pour faire cette formation de cadre à l'action culturelle, quoi. Qui a donné pour l'essentiel des directeurs de lieux. Hein, et moi, j'étais un des rares qui avait dit, mais moi, je veux faire un metteur en scène, comédien, mais pour créer une entreprise. Mais donc, c'est créer une entreprise culturelle, c'est créer une troupe, donc créer une entreprise culturelle. J'ai besoin de ce type de formation, quoi. C'est comme ça que je les ai convaincus de me prendre. Et Et là, j'ai mené un parcours de théâtre, mais qui a toujours été sensible à la musique. J'ai fait souvent des spectacles quand même musicaux, et voire liés à la chanson. Notamment, j'ai fait deux versions en deux fois, en 82 puis en 88, un spectacle autour de Piaf, de comment un mythe comme Piaf est fabriqué en fait par un peuple dans des conditions historiques données, quoi. Et donc, ça a été un spectacle qu'on a créé en 82 sous le titre Piaf ou Qui j'aurais été, qui est une phrase d'elle. Je serais morte et on aura tant dit de moi que personne ne saura plus vraiment qui j'aurais été. Mmh. Elle est grammaticalement limite, mais elle ressemble à Piaf. Mmh. Et puis la deuxième version, donc on a retouché un peu, il y avait une autre distribution aussi, qu'on a faite 6 ans plus tard, sous le titre « Piaf ou la fleur à la manche ».
D'un bout à l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les faubourgs, on les voit traîner par centaines, leurs guêtres sales et leurs amours, dans des chemises de 10 jours, sous la lumière des réverbères, prenant des airs de pompadour. Ce sont nos belles ferronnières, ce sont nos poupées, nos guignols, nos pantins. Écoutez, dans la nuit, elles chantent ce refrain. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont, sans un rond en poche. C'est nous les paumés, les purées de paumées, qui sommes aimés. Un soir, n'importe où, nous avons pourtant le cœur pas exigeant, mais personne n'en veut, et ben tant pis pour eux, qu'est-ce que ça fout, on s'en fout. Et nul ne s'y accroche, il n'y a pas d'amour, et l'on sera toujours les mômes de la cloche. Mais comme elles n'ont pas les toilettes qu'il faut pour les quartiers rupins, n'est pas aux galeries la faillette qu'elles vont faire chaque soir leur turbin. Le long du canal Saint-Martin, au Sébastopol, à la chapelle, oh, on est toujours assez gandins. Pour le monsieur qui vous appelle, c'est de l'article populaire, c'est pas du beau joujou. Y'a pas de poupée en soi au bazar à 30 sous. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les paumés, les purées de paumés, qui sommes aimés un soir n'importe où. Tout comme nos ribouis, nous ne sommes pas vernis, jamais l'on ira sur la rivière. Qu'est-ce que ça fout, on s'en fout. Quand l'agent nous chauffe, on va faire 4 jours d'abord à la tour, les mômes de la cloche. Elles ont vendu toutes leurs caresses, elles furent payées tant bien que mal. Puis un jour, plus rien dans la caisse, elles vont se ficher dans le canal. Et sans avoir comme à cheval la pitié des gens de la rue, on les emmène à l'hôpital. La foule dit fortune n'est qu'une grue. Et voilà comment nos poupées, nos pantins, lorsqu'elles n'ont plus le sou, s'en vont toutes à Pantin. C'est nous les mômes de la cloche, nos chars qui sont bons, sans amis, sans proches. C'est nous les paumés, les purées de paumés, qui s'en vont dormir dans l'horrible trou. Derrière notre convoi, jamais l'on ne voit ni fleurs, ni couronne, pas même une personne. Qu'est-ce que ça fout, on s'en fout. Quand la mort nous fauche, c'est notre plus beau jour. Cloche, sonne pour les mondes de la cloche.
Quand j'ai créé la compagnie de la chenille, donc la troupe au départ, au tout début, dans le groupe d'amis avec qui j'ai créé la troupe, il y avait une fille, Marie-Jo Gonnet, bon, qui est devenue ma femme, dont j'étais évidemment donc, très proche, mais qui a d'abord été une amie, vraiment une amie d'adolescence. On a été ensemble que plus tard, quoi. Et donc, c'est avec elle qu'on a créé la troupe, que la troupe est devenue professionnelle. Elle a suivi le même type de formation que j'ai suivi, moi, 2 ans après moi. Elle a fait cette même formation de cadre d'action culturelle. Et puis la leucémie, et puis voilà. Plus de Marie-Jo en 87. Donc, elle quitte la scène définitivement. Donc là, moi, quand même une grosse page qui se tourne. Grosse fin de chapitre. Et donc là, la compagnie arrête, en fait, de fait. Et moi, je me retrouve plus à faire l'acteur avec d'autres, c'est-à-dire à plus être le leader d'un truc. En plus, bon, voilà, j'avais jamais été adulte sans elle, on avait vraiment fabriqué ça ensemble, donc j'ai eu quand même une période un peu paumée. Et donc, je me suis retrouvé plutôt content que d'autres familles m'accueillent, et du coup, je me retrouve à faire l'acteur. L'été qui avait suivi une saison où j'avais beaucoup, beaucoup tourné. Donc j'avais été très absent de la maison. L'été, l'idée de vacances n'était pas du tout associée au fait de partir, parce que j'étais parti toute l'année. Donc c'était vraiment au fait de rester à la maison, quoi. Et là, je ne sais pas comment, je ne me souviens plus exactement comment ça s'est goupillé, mais je suis tombé, sans doute en rangeant des trucs, je suis retombé sur des bouts de texte, des conneries qu'on écrivait avec les self-made men quand j'étais au lycée.
Ok.
Et notamment sur une chanson qu'on n'avait jamais terminée, je me lance le défi, comme ça un peu, d'écrire une chanson sur une seule rime. La plus longue possible sur une seule rime. Mais je me lance un défi, c'est-à-dire que c'est pas du tout, je me dis pas je vais me mettre à écrire des chansons. C'est plutôt les vacances, je fais les mots croisés pour me vider la tête. Donc je fais un jeu littéraire, donc sans but, quoi, sans autre but. Que le jeu, je m'amuse à écrire une chanson sur une seule rime. Et qui raconte, évidemment, il fallait que ça raconte un truc. Donc je raconte l'histoire de Charlotte, qui a des marottes, qui a pas de culotte, enfin je sais pas quoi. On raconte des conneries. Et des rimes marottes, on peut en trouver plein, donc j'en trouve plein, et je fais la chanson la plus longue possible. Donc, mais c'est une chanson, ça fait partie de ces chansons cirque, que j'appelle cirque. Mmh. Parce que c'est des chansons où justement, il faut que je la chante à fond la caisse. Elle est performante, quoi. On se dit, c'est pas possible, il n'y en a plus, quoi. Il y a un effet confetti, quoi. T'as l'impression que t'as des hôtes partout. Donc elle a un côté comme ça, à la fin. C'est pas possible. Et donc j'en fais 2, 3. Puis la troisième, c'est vrai que je commence à me dire, j'avais déjà 45 balais, hein, donc. C'est l'âge de m'emballer sur un truc. Et je me disais, c'est quand même pas mal, finalement, ça se tient. Faudrait que j'en parle avec Mimi, avec Michel Bernard. Peut-être qu'elle connaît quelqu'un que ça peut intéresser. Vraiment, il y a ce truc-là qui me traverse. Quoi.
Okay.
Faudrait que je lui en parle à l'occasion. Mais c'est tout, je vais pas plus loin que ça. Donc j'en écris comme ça, quelques-unes. 5, 6. Et là, vient en visite tout à fait privée un copain, un de ceux qui avait fait cette fameuse formation, là, qui dirigeait une structure culturelle, un gros centre culturel dans le pays de Montbéliard, qui passe en visite privée à la maison pendant l'hiver. Et donc, on passe un moment, bon, des coups et tout, et puis vient dans la conversation le fait que l'été dernier, un copain commun sans doute avait dû passer. De façon impromptue pendant les vacances, et j'étais là à la maison, j'étais en train d'écrire des chansons, tu vois.
Okay.
Et puis du coup, je lui dis, ah putain, il faudrait que je les montre. Donc je lui les montre, mais je les redéchiffre devant lui, parce que je ne me souvenais plus, donc je reprends la guitare, j'ai le verre de blanc à côté, la clope, parce que je fumais à l'époque, et je les chante autant que je puisse, comme ça, en les relisant. Et à la fin du truc, il me fait, t'es pas capable de venir les chanter au festival Truc Muche que j'organise. Je dis, moi, tu n'as pas cap, tu as ton festival. Je t'en fais une version néo-punk, comment ça va pas traîner. Enfin bon, on commence à faire les cons, on buvant des coups, quoi. Et puis on commence à délirer. Et sauf que quand il est reparti le lundi, je me dis, C'est-à-dire, sur le coup, j'ai dit oui, et puis le lundi, je me suis dit, bon, attends, on va pas signer de contrat, mais si j'y vais pas, il y a rupture d'amitié, quoi. Donc, tu vois, on avait craché par terre, quoi, c'est tout. Donc là, je rebranche un des guitaristes des Self Mad Men, et je lui dis, viens à la maison, je vais te raconter un truc. On fait tourner un peu les chansons, je me dis, bon, ça va peut-être être un peu juste quand même. Moi, ça serait bien que je lâche la guitare, que je puisse me concentrer sur le fait de les chanter, parce que bon, j'ai flippé. Et là, je pense à deux petits jeunes comédiens que j'avais eu moi en stage, et dont je savais qu'ils étaient un peu musiciens, c'est un peu amateurs, mais surtout qu'ils étaient bons comédiens, et qu'on pourrait faire un peu le truc, faire les cons ensemble. C'était Hervé Pérard, Stricky maintenant, et Luc Chariron, dont tu as pu entendre parler aussi, bon. Et qui sont tous les deux me disent oui tout de suite, enthousiaste, si c'est pour aller faire les cours en Molière, il n'y aura pas de problème, on va le faire et tout. Et donc ils se mettent, voilà, Luc se met un peu au piano, il bosse, il n'est pas un grand pianiste, mais enfin il a bossé, et donc ça le faisait, quoi. Ça faisait l'affaire, quoi. Et donc on monte, on va faire ce truc à Montbéliard. Et là, c'est un carton. On se retrouve avec un public qui n'était pas du tout un public de copains, là. Et là, la mayonnaise me prend d'une force, quoi. Je le sens, je ne sais pas comment dire, c'est très compliqué, ça. Autant la chanson, je n'étais pas spécialiste, mais là, public, je savais bien comment ça marchait. Ça faisait 20 ans que j'avais du théâtre, quoi, même plus. Et là, je sens qu'ils sont à l'endroit où je suis, je ne sais pas comment. On joue trois fois lors de l'apéro, trois fois la même chose, évidemment. Il y en a qui sont venus les trois fois, quand même.
Okay.
Qui sont revenus le lendemain et le surlendemain. Putain, là, je rentre secoué, quoi. Donc, j'attends un petit peu, et puis, je réinvite les trois musiciens qui avaient joué avec nous, quoi. On a mangé à la maison, en cause de tout ça, quand même. Puis je leur dis, c'est quand même passé un truc. Donc, je leur dis, pendant cette bouffe, aux copains musiciens, je leur dis, si vous voulez... Si ça vous tente, moi je prends rien d'autre en théâtre. Là, j'ai du boulot. Par contre, j'ai quand même du temps et puis j'ai l'esprit disponible. Donc, je peux essayer d'écrire d'autres chansons. Et si vous voulez, l'été prochain, on monte un spectacle de chansons au complet. Au lieu d'en avoir 6, on monte 15 chansons. Oh, ouais, super et tout. Donc là, on se retrouve dans cette pièce. On commence à bosser sérieux. Parce que là, évidemment, au niveau de l'exigence artistique, on monte d'un cran quand même. Donc là, ça bosse. Bon, à la troisième répète, le copain graphiste me dit, attends, moi, je suis graphiste, hein, je suis pas...
C'est qui jouait de la guitare, donc.
Ouais, le bon guitariste de l'histoire. Mais il n'avait pas l'intention de devenir intermittent, c'est ce que les autres étaient, par contre. Donc voilà, c'est toujours un pote, évidemment, ça n'a rien changé, mais il m'a dit, ouais, je préfère arrêter. Et là, par contre, j'ai pu brancher un vrai musicien, que je connaissais, que j'aurais pas dérangé le premier coup, mais là, à qui je pouvais dire, voilà, on monte un projet... C'est fait pour tourner, si tu veux être des nôtres, très bien. Et même, tu vas prendre la direction musicale du truc, quoi. Et puis là, il commence à me dire, ouais, attends, les deux autres, c'est un peu court, quand même, musicalement. Je dis, ouais, musicalement, ils sont un peu courts, mais théâtralement, ils sont pas courts du tout. Donc ça va être ton boulot, de faire des arrangements qui soient juste un petit peu au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire pour qu'ils le fassent, et qu'ils bossent, mais qu'ils y arrivent. Mais par contre, au niveau du spectacle... Eux, ils vont faire la différence, ça je le sais, je le savais déjà, quoi. Et puis effectivement, ils ont fait la différence, quoi. Parce que c'est pas des musiciens qui essayent de faire des acteurs, c'est des acteurs qui sont musiciens. Mais c'est des vrais acteurs. Et en plus, eux, ils étaient à la maternelle ensemble, ils se connaissent par cœur, donc moi, je les ai eus en stage. Donc on se connaît bien, on peut improviser, tout événement est bon à prendre, tout incident est bon à prendre. Donc c'était... Ouais, on a fait toute l'histoire comme ça, quoi. Et là, l'histoire est partie et on a fait deux versions de ce spectacle. Donc ça s'appelait les garçons qui l'accompagnent. Et on a fait 200 représentations un peu partout. Et puis au bout de 9 ans, Luc a dit « Moi, j'aimerais bien en faire plus de théâtre. Donc je préférerais arrêter. » Et j'ai dit « Écoute, bien sûr. Par contre, si on a un qui arrête, on arrête. Et on remplace personne. T'es pas remplaçable. » Donc si t'arrêtes, on arrête et on fait On fait autre chose, quoi. On invente un autre truc, c'est plus les garçons. Les garçons, c'est fini. Parmi les gens qui ont beaucoup compté dans cette histoire, donc mon papa qui m'a fait apprendre la musique, et Marie-Jo avec qui je partage la création de la compagnie de théâtre, ni l'un ni l'autre, enfin si l'un et l'autre revenaient aujourd'hui, ils n'auront pas su que je suis devenu chanteur. Ils sont morts avant, et l'un et l'autre. Donc ils m'ont connu que théâtre. Marie-Jo partait en 87 et moi je commence la chanson 10 ans après. Quoi. Aujourd'hui je suis repéré chanteur, mais... Je suis dans le tombeau des nues, c'est le cas de le dire. C'est le débarqué aujourd'hui pour... Et mon père, c'est pareil, il a suivi un peu mes trucs de théâtre. Un peu de loin, sans trop ça... Enfin, trop, toujours bien comprendre ce qui se passait, mais en tout cas, la chanson, il l'aura pas connue. Ma mère, oui, mais pas lui. Et j'ai fêté mon 1000e concert au Théâtre de Privas à fin 2000. C'était 20 ans de chansons, 1000e concert. Ça fait partie d'ailleurs des concerts pour moi inoubliables parce que déjà c'était le pari. Mon pari c'était de réunir tous les musiciens qui m'ont accompagné dans les spectacles depuis le début. Et il n'en manquait pas un. Ce qui pour moi raconte beaucoup de choses aussi. Le théâtre était plein. En plus, il y a des gens qui suivent cette histoire, il y a des, on va dire des fans, pas bien le bon mot, mais enfin, il y a des gens qui sont attachés à cette histoire, qui viennent me voir régulièrement, etc. Là, il y en est venu vraiment des quatre coins de France. Quoi. Il y en est venu de partout qui se sont dit, ah bah tiens, 1000e concert à Morel, en Ardèche, pourquoi pas un petit week-end, vas-y que je te loue un gîte, que je prends un hôtel. Parfois, ils sont venus en groupe, ils se sont retrouvés à plusieurs... Ils sont débarqués la veille, ils ont sorti les guitares. Enfin bon, ça a été un truc. Mais il y en est venu. Enfin, j'ai pas forcément tout su d'ailleurs, mais que j'ai su de Nantes, de Picardie, de Toulouse, de Savoie, de Belgique, de Suisse. Il y en est vraiment venu de partout. Et ça c'était quand même bien, bien bouleversé.
Aux 12 coups de minuit, mon homme tomba dans un puits. Depuis lors, épouse fidèle, je soupire sur la margelle. Et pour tromper mon chagrin, je fredonne ce refrain. Ah, si j'avais une corde, éperdue de miséricorde, je crois que rien ne pourrait m'empêcher de m'en aller le repêcher. Je ne mange plus depuis qu'il marine au fond de ce puits et je veille en sentinelle sur le bord de la margelle. Mais sans vouloir me vanter, je me dis en vérité que si j'avais une échelle brûlant d'amour éternel, je m'en irais sans plus de discours, rapidement lui porter secours. Qu'on me donne un prompt appui, gémit-il au fond du puits, et moi redoublant de zèle, assise près de la margelle. Je lui chante doucement pour apaiser son tourment. Ah, si je possédais un treuil, j'éviterais un triste deuil, car je saurais, n'en doute pas, t'épargner ce pénible trépas. Puis jugeant que je ne puis l'abandonner dans ce puits, de temps en temps je l'appelle penché sur la margelle. D'ailleurs je me fais un devoir de ne point perdre tout espoir, preuve que les gens secourables sont précieux pour leurs semblables et les assistent sans faiblir jusque à leur dernier soupir.
C'était Anne Sylvestre. Ouais, parce que bon, bah Anne, moi quand j'ai commencé la chanson, il y avait plein de gens que je connaissais pas du tout. Certains que je connaissais un peu de réputation, comme Anne, mais dont je connaissais pas particulièrement le répertoire. Quoi. Et puis en fait, on s'est rencontrés une première fois dans l'environnement de Michel Bernard, elle est très proche de Michel aussi. Et puis surtout la vraie rencontre, donc là on s'est croisés quoi. Voilà. Mais la vraie rencontre a eu lieu lors d'une manifestation qui est organisée à Saint-Nazaire, dans l'Atlantique, par la scène nationale de Saint-Nazaire, dont la directrice, qui n'est plus de ce monde maintenant, à l'époque était très orientée sur la chanson. La scène nationale avait vraiment la chanson au cœur de son projet artistique. Et là, elle m'avait invité, c'est qu'une dizaine d'autres, dont Anne, sur une soirée, sur un marathon comme ça, de jalousie d'artistes. C'est-à-dire que le principe, c'était, on allait chanter chacun une dizaine de chansons, trois ou quatre de notre répertoire qu'elle choisissait, elle, et après, six ou sept chansons qu'on aurait aimé avoir écrites. Deux, qu'on aurait aimé avoir écrites. Et donc, ça, c'était assez passionnant, quoi. Et moi, donc, je choisis six ou sept chansons que j'aurais aimé avoir écrites, dont une chanson d'un type que j'ai rencontré grâce à la chanson, enfin par la chanson que j'ai rencontré, dont j'ai rencontré le répertoire, c'est Roger Riffard. Parce que, donc, je fais une petite parenthèse, Roger Riffard, un jour, il y a un mec en fait, qui m'écrit en me disant « Oh, vous, les chansons que vous chantez, vous devez être très influencé par Roger Riffard. » Et moi, je ne sais pas Roger Riffard. Et là, il m'envoie la copie d'un disque. Et là, les bras me tombent tellement. J'avais l'impression d'être dans sa tête. Et c'était Anne Sylvestre. Humour à la gravité, à la tendresse. Enfin bon, tout, c'était... Pour moi, c'était Bobby Lapointe, la poésie en plus, quoi. Donc je prends une chanson de Riffard. Et là, il y avait Anne aussi. Donc on se revoit, on s'était déjà croisés un petit peu, mais on ne se connaissait pas plus que là. Et là, elle voit que j'ai pris une chanson de Riffard. Elle en avait pris une aussi.
Ah oui.
Et puis et là, elle me raconte que, parce qu'en fait, Riffard, c'était un ami à elle, ils étaient voisins, ils se gardaient mutuellement les enfants. Enfin, bon. Et donc, à partir de là, ça a été le début d'une grande amitié avec Anne. Pas que à cause de Riffard, parce qu'évidemment, après, il y avait d'autres choses qui ont fait qu'on s'aimait beaucoup. Et que, bon, elle a toujours bien aimé mes chansons, elle m'a vu, je sais pas, peut-être 15 fois en concert, voire plus, enfin, je sais pas, et réciproquement. Enfin, bon. Puis elle est venue sur des trucs. Elle a participé au spectacle anniversaire là, des 20 ans de chansons au millième concert. Elle a fait le voyage pour venir chanter une chanson en duo avec moi, hein, c'est tout. Hein.
Okay.
Mais je n'aurais pas proposé, elle me crevait les yeux. C'était pareil. Mmh. On partageait plein de choses. Puis bon, on avait. On fait partie aussi d'une famille de chanteurs. La même famille de chanteurs, on s'est retrouvé beaucoup. Bon, j'ai cité les Bars à Jamais. Bon, ben, moi j'ai monté aussi un spectacle comme ça, un peu type Bars à Jamais, enfin collectif, mais plus avec une thématique. Ça s'appelait La Guinguette des Fines Gueules. Donc là, c'est autour sur le thème des saveurs, quoi. Donc c'est que des chansons qui ont à voir avec, avec les saveurs. Donc là, il y a un petit noyau dur, pareil. Qui est lié au musicien avec qui je travaille ici, Hervé Perard, comme chanteur. Donc on a monté le truc à 5, mais c'est fait pour que d'autres soient invités. Donc il y a chaque fois entre 2 et 4 invités par spectacle. Et le spectacle, bilan, le coût du spectacle varie selon le nombre d'invités. Et donc là, on en fait partie, ben, Anne, ben, des gens que j'ai cités, quoi, Jamais, Michel Bernard, Entre deux caisses. Il y en a une vingtaine comme ça qui ont pu participer à la tour de rôle. Et c'était des belles aventures aussi, ça. Bon, et puis en particulier avec les garçons, où il y avait plus d'improvisation. On gérait les événements, c'est-à-dire après, t'as des, je sais pas, le journaliste local qui vient en plein milieu du concert pour faire la photo, qui vient se planter devant la scène. Nous, on arrête. On arrête au milieu de la chanson. On pose. Tranche du mec. Fin de la nana. Toute la salle mord de rire, parce que manifestement, la salle, ils la connaissent par cœur, à chaque fois, ils viennent les emmerder. Donc là, on s'arrête. Donc, continue. Ah, non, c'est trop important, faut faire la photo. Donc on pose, elle fait la photo, et là, après, elle s'en va. Et moi, mais vous partez déjà? Mais on se connaît à peine. Enfin, je pense. Et là, on fait sketch, quoi. « souvent comme ça des impromptus qui étaient pour nous des matières. Quand on me demandait à chaque fois, notamment à Avignon, est-ce qu'on prend des gens après que le spectacle soit commencé ou pas ? Ah, j'ai dit, moi, c'était toujours oui, surtout. De même quand il y avait un portable qui sonnait. On oubliait toujours de dire d'éteindre les portables.
Ah oui, ce obligatoirement.
Ce qui fait que régulièrement, ouais. Ça arrivait. Là, c'était arrête net au milieu. Et celui qui a le portable qui a sonné, ben, il va nous chanter une petite chanson. Ah non, mais moi, je ne sais pas chanter. Ah, mais moi non plus. Ouais, j'y arrive quand même. Et là, il était un petit navire, par exemple. Les autres l'aidaient et tout. Et après, tu vois tout le monde qui est dans son truc. Avignon, lors d'une des dernières représentations, un téléphone portable sonne. Donc j'arrête, pas comme d'habitude. Et là, un deuxième, un troisième, tout. Et là, il y en a 25 qui sonnent. Et en fait, il y avait une consigne qui s'était donnée, ils le savaient. Donc d'accord. Tout le monde avait mis son truc à sonner à la même heure, si eux, pour foutre le bordel, enfin, me chahuter moi, quoi. Voilà, me prendre à mon piège. Ça avait été très sympa. Mais c'est particulier à la chanson. Il y a vraiment le côté industriel et le côté artisanal. Donc moi, j'ai toujours tenu à garder le côté artisanal. Effectivement, t'as moins la gloire. Mais la gloire, elle coûte cher. Et notamment, elle coûte cher sur la durée. Moi, j'ai duré. En tout cas, j'ai attaqué il y a un peu plus de 20 ans et j'ai honnêtement gagné ma croûte. Je n'ai pas fait fortune, hein. Mais ça va, tu vois, à la maison, je ne suis pas à plaindre. Et puis j'ai fait comme j'ai voulu. Je me suis retrouvé souvent comme ça, des micros de radio, et qui disent, mais comment ça se fait que vous ne soyez pas plus connu ? Ben, je vous pose la question, si tu veux, si moi je fais ce que j'ai à faire. Après, pour que ce soit connu, si les médias ne s'en occupent pas, donc ça c'est vos choix, c'est pas les miens. Tu vois, il y a un côté comme ça, quoi. Je parle pas évidemment d'une radio comme la vôtre, qui a d'ailleurs toujours fait, moi, Radio BLV, j'y étais dès le début, j'ai été invité à des émissions sur la chanson, enfin, il y a toujours eu des émissions qui ont milité pour défendre la chanson, la musique. Mais je parle des grands médias. Moi, j'ai jamais refusé quoi que ce soit. Mais j'ai jamais dépensé un sou avec une attachée de presse pour faire en sorte de passer à l'émission de Trucmuche ou pas, quoi. Jamais. Si tu veux que je vienne, je viens. Mais de toute façon, si quand je joue au Théâtre de Privas pour mon millième anniversaire, mon millième concert, si le théâtre est plein, c'est pas grâce à France Inter. Grâce à nous, grâce au théâtre de Privas, grâce à nos réseaux, y compris dans des lieux, je sais pas, remplir une salle à Redon en plein cœur de la Bretagne, si je la remplis, c'est parce que les gens font confiance au directeur du théâtre de Redon, qui fait venir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils se disent, s'il le fait venir, c'est qu'il l'a vu, que ça doit être bien. Donc on va y aller. Et on remplit la salle. Et les gens sortent, sont contents, ils ont découvert un truc. Donc il y a un directeur de salle qui a exciter leur curiosité, qui les a habitués à être curieux. On sait s'installer dans des salles qui ne sont pas faites pour ça, les transformer en théâtre. On sait le faire, on a cette culture-là. Quoi. Bon, après, et moi, j'ai toujours trouvé un bonheur, là. Parce que là, je peux tirer le bilan, parce que je suis censé être retraité, je continue à jouer, mais statutairement, je ne dépends plus de l'intermittence. Donc, je commence aussi à tirer les conclusions quoi, de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et vraiment, mais c'est comme pour les disques. Moi, je me souviens au tout début, là, Yves Jamais, dont j'ai parlé, dont je suis proche depuis longtemps, il y a eu un moment, son tout premier disque, on lui le demandait, il ne peut plus le sortir, parce qu'il avait été produit par une structure qui avait fait faillite, donc les bandes étaient sous-scellées. Il a fallu que Comment Patrick Sébastien tombe amoureux des chansons d'Yves. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il lui raconte ça et l'autre, il a racheté les bandes. Mais sinon, c'était des... Comment on dit des...
C'était devenu propriété...
C'était, c'est-à-dire que c'était sous-scellé parce qu'il y avait des... Des créanciers, quoi. Donc, on ne peut pas, voilà. Et moi, très tôt, je me suis dit, qui veut coproduire mes disques, il sera bienvenu. Mais moi, je suis producteur de mes disques. Et les bandes, elles sont à la maison. Depuis septembre, je ne suis pas qu'un spectateur. Et je suis pas seul, on est tous comme ça. Donc, puis en plus, on n'est pas, et pour en parler avec les proches, c'est pas des périodes où on écrit, par exemple. C'est pas des périodes propices, parce qu'a priori, quand on écrit, on se confine justement, pour le coup. On s'isole, on essaye de décrocher le téléphone, d'être créer une bulle, quoi. Mais c'est une fausse bulle, c'est une bulle de, parce qu'on est quand même en contact social, il se passe des choses. Là, le confinement nous met dans une sorte d'état de paresse. On ne peut pas faire grand-chose, qui n'est pas propice, parce que ce n'est pas un état de paresse. Écrire, ce n'est pas du tout un état de paresse. C'est un état de perte de temps, parce qu'on jette... Après, ça dépend... Enfin, moi, en tout cas, je jette beaucoup. Il y a peu de choses... J'ai déposé 50 chansons, pas plus, depuis 20 ans. Hein. Donc ça fait 2,5 par an. Hein. Ça fait pas beaucoup. Les périodes où j'écris, c'est les périodes où je perds beaucoup de temps, où j'ai besoin de... Je trempe, quoi, je sais pas comment dire. Il y a un effet de macération. Je trempe dans des trucs, je tire des fils. Et des fois, ça vient, et puis le fil se pète, et c'est pas intéressant. Je garde, parce que on sait jamais, des fois, en mettant ce bout de travail... avec un autre bout que j'aurais fait 3 ans plus tard, des fois les deux mis ensemble, ça fait une mayonnaise. Et puis des fois on tire un fil, puis ça vient, et là il y a un truc dont on peut avoir envie de le partager, quoi. Donc il y a eu un moment où effectivement je me suis retrouvé, je dis souvent j'ai changé d'école. J'avais pas oublié mes copains de l'école d'avant, mais là, je connaissais personne dans l'école. Puis les mecs, ils me regardaient un peu de travers. C'est un foot là, quoi. Et puis, il y a eu quand même un moment où j'ai senti bien le passage, où ils sont venus me taper sur l'épaule en disant « Bon, ben, ok, bienvenue au club. »
Je t'aime très beaucoup. Je t'aime jusqu'au cou, à donf, à toute bise, à rabord. Je t'aime à la pelle, je t'aime à tire-d'aile, à tout bout de champ, sous tout rapport. Je t'aime quand c'est bien, je t'aime l'air de rien. Je t'aime en dépit du bon sens. Je t'aime corps et âme, je t'aime haut de gamme. Je t'aime au petit bonheur, la chance. Je t'aime à petit feu, en épingle à cheveux, en long, en large, à découvert. Je t'aime sans souci, à bras raccourcis, à me taper le cul par terre. Je t'aime en entier, de la tête aux pieds, de toute beauté, de tout mon sou, sur le bout de la langue et sous tous les angles. Je t'aime jusqu'au sixième dessous. Je t'aime jusqu'aux yeux et à qui mieux, au top, à couper au couteau, par quatre chemins, comme les dos de la main, comme un cerise sur le gâteau. Je t'aime à haute dose, en vers comme en prose. Je t'aime en veux-tu, en voilà. Je t'aime jusque-là et tout le tralala. Je t'aime de Caribe dans Scylla. Je t'aime très beaucoup, je t'aime à grands coups de chaleur, à grands coups de foudre, à grands coups de cœur sur toute la longueur. Je t'aime comme une traînée de poudre, je t'aime tout à trac d'un béguin comac, ad vitam, abride abattu, même ad libitum, mais comme un seul homme. Je t'aime à bouche, que veux-tu? Je t'aime à foison, plus que de raison, à la louche, à l'aise, à l'excès. Je t'aime à la tonne, sans fleur ni couronne, sans autre forme de procès. Je t'aime sans froufrou sur les chapeaux de roue, sans chichi, sans comme une mesure, comme un rond de flanc cousu de fil blanc. Je t'aime sous toutes les coutures, je t'aime plein chariot, triposé. Et bouche à bouche et côte à côte, comme si j'en rêvais, comme s'il en pleuvait, comme qui dirait, comme à Gravelotte. Je t'aime à tout crin, je t'aime à fond de train, à pied, à cheval et à revendre. Je t'aime à pierre fendre, je t'aime pique-pendre, je t'aime les yeux plus grands que le ventre. Je t'aime très beaucoup et t'aimais du premier coup, de première bourre au premier chef. Je t'aime un paxon, je t'aime en chanson, je t'aime en creux comme en relief. Je t'aime endormi comme c'est pas permis, de haute volée, de haute futée. Je t'aime au réveil comme des eaux soleil, je t'aime comme si de rien n'était. Je t'aime aux petits soins sans chercher plus loin, sourire en coin, cœur en lambeau. Je t'aime à la coule, la bouche en cul de poule et les deux pieds dans le même sabot. Je t'aime le cœur gros, la poule à zéro, jusqu'à plus soif, jusqu'au trognon. Je t'aime en VO, je t'aime sans réo, je t'aime sans blague, aux petits oignons. Je t'aime à la marge, je t'aime comme un barge, comme une madeleine, comme une baleine, comme un rire d'enfant, comme un éléphant, dans un magasin de porcelaine. Je t'aime sans emballe, je t'aime sans tapage, sans le griller sur tous les toits. Je t'aime à mi-voix, sans langue de bois, je t'aime sans lever le petit doigt. Parce que ça vaut le coup et en toutes lettres et à perpète, à hué, à dias, en galimatia. Je t'aime sans tambour ni tempête, je t'aime en majeur dans les grandes largeurs, tout chaud, tout doux, tout beau, tout plein. Je t'aime en désordre et jusqu'à la corde, je t'aime jusqu'à la cinglinglin. Je t'aime fort debout, je t'aime jusqu'au bout, je t'aime jusqu'au dernier carat. Follement, joliment et tout le tremblement, drôlement, salement, etc. Et puis tant qu'un peu, autant que faire se peut, autant qu'un pape on peut bénir, jusqu'au bout du monde et chaque seconde, et je suis pas pressé d'en finir. Je t'aime à tue-tête, au ras des pâquerettes, au quart de tour, au quart de poil. Je t'aime comme un gosse, je t'aime jusqu'à l'os, jusqu'à la gauche, jusqu'à la moelle, et jusqu'au trou de nez, sans déconner, sans fin, sans trêve et sans reproche. Je t'aime comme un mioche, les mains dans les poches, je t'aime, c'est clair, comme de l'ouvrage. Beaucoup, je t'aime jusqu'au cou, à donf, à toute bise, à rabord. Je t'aime à la pelle, je t'aime à tire d'aile, je t'aime à max, je t'aime à mourir.
On a 4 heures d'émission là.
Ouais.
C'était Recto Verso. Une émission réalisée avec la complicité de Léo, Laure et Anne. Avec, aux commandes musicales, à la composition et au montage, Florent Hermet. Ce voyage vous a été proposé par Vanessa Longepierre et Radio BLV.
Recto.